Parlez-moi d'IA.
Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison.
C'est une machine qui ressent les choses.
On nous raconte n'importe quoi sur l'IA.
Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit ?
Moi, je n'en dis rien du tout.
Que la créativité, elle reste du côté de l'humain.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Philippe Clément, bienvenue sur Parlez-moi d'IA sur Cause Commune. La radio pour débattre, transmettre et comprendre. Transmettre et comprendre, c'est aussi l'objectif que se fixe cette émission sur le sujet spécifique des data et des algorithmes, et surtout des intelligences artificielles. Nous avons 30 minutes pour essayer de mieux comprendre ces nouveaux outils ensemble. Cause Commune, que vous pouvez retrouver sur le web cause-commune.fm, sur la bande FM Paris 93.1 et sur le DAB+, bien entendu, et en podcast sur votre plateforme préférée. N'hésitez pas à partager cette émission autour de vous et lui donner plein de likes et d'étoiles si vous l'appréciez, c'est notre seule récompense. Cette semaine, pas de message en direction de mon réalisateur préféré Jérôme Sorel, il n'est pas là. Et ce n'est pas pour rassurer notre directeur d'antenne Olivier Gréco que je remercie d'autant plus de me donner cette opportunité de vous parler de data et d'IA. Merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, de tester et d'écouter à nouveau cette émission. Cette semaine, j'ai lu un article de Julien Falgas et Pascal Robert sur The Conversation qui s'appelait ou qui s'intitulait « Présenter l'IA comme une évidence, c'est empêcher de réfléchir le numérique ». Les deux auteurs nous alertent sur la présentation de l'IA par les médias et sur le fait que le sujet est peut-être un impensé. Ils nous donnent des indices pour repérer un sujet impensé, c'est-à-dire un sujet sur lequel on se refuse collectivement à réfléchir. Je vous laisse lire l'article, mais quand on vous dit que l'IA est inéluctable, j'étais sûr que j'allais chuter sur ce mot-là, que le politique n'y peut rien et qu'il n'y a qu'une seule façon de faire pour gérer nos vies, on rentre dans une zone grise qui doit allumer tous les gyrophares. Alors ici, on aime la techno, j'aime la techno, mais comme le dit le livre blanc de Data for Good, on aime la techno lucide, la techno décortiquée, la techno compréhensible, la techno qui porte un impact positif, la techno qui répond à un vrai problème. Par exemple, la connaissance. Nous produisons de plus en plus de contenu, de données, de connaissances. Et si on ne veut pas que cette production ne serve qu'une seule fois et soit réutilisable, il faut organiser la chaîne de production de nos contenus. Il faut concevoir le stockage intelligent, il faut construire les outils pour naviguer à l'intérieur de ces contenus et de ces connaissances. Ça serait bien que l'IA nous aide à faire tout ça. Eh bien justement, notre invité du jour, il y travaille, et pas depuis un an hein, comme ChatGPT. Il y a 10 ans de R&D derrière lui pour proposer aujourd'hui les services de sa société Perfect Memory. Bonjour, Stéphanie Solitude.
Bonjour.
Merci d'être avec nous par téléphone pour évoquer l'usage de l'IA dans la gestion des connaissances. Alors, parlez-moi d'IA, Stéphanie Solitude. C'est aujourd'hui possible d'avoir une Perfect Memory, une mémoire parfaite grâce à l'IA ?
Alors déjà, l'IA, il faut préciser qu'il y a des IA, il n'y a pas une IA, et il y a au moins deux grandes catégories d'IA. Il y a l'IA statistique, qui est utilisée par ChatGPT et qui consiste à entraîner des modèles sur de grands volumes de données, de manière à ce qu'ils puissent identifier des patterns, des motifs pour les reproduire. Et puis il y a l'IA formelle, les systèmes experts, qui a été les premières IA à produire du résultat. Ils ont beaucoup été utilisés en médecine, donc qui reposent sur une connaissance formelle et sur des modalités de raisonnement logique. Et donc la première, qui est l'IA statistique, elle ne permet pas d'expliquer les résultats, puisque c'est de la statistique et c'est de
la probabilité,
de la reconnaissance de motifs, tandis que l'IA formelle, elle, est explicable, puisque on sait que les raisonnements ont été menés par le système.
Alors vous, depuis 10 ans, vous faites quel type d'IA, du coup, en R&D ? Qu'est-ce qu'on fait pendant 10 ans avant une commercialisation en R&D pour arriver à un produit aussi abouti que le vôtre ?
Ben déjà, nous, on a cherché à adresser un problème majeur qui est celui de l'ingénierie des connaissances. Et donc, pour ça, on est obligé de faire marcher les deux jambes ensemble, l'IA formelle et l'IA statistique. Donc, on fait les deux.
D'accord.
Depuis 10 ans. Et depuis 10 ans, on cherche à articuler le fonctionnement et le dialogue entre ces deux mondes qui doivent nécessairement se parler, puisque, en fait, l'IA formelle, elle est très proche de l'humain, puisqu'elle permet de prendre en compte des raisonnements et des processus, des modalités de désignation des données, de l'information reconnues par l'humain, et l'IA statistique fait du traitement entre les deux. Donc, en fait, les systèmes experts, ils utilisent des technologies dites sémantiques. Et en fait, l'homme, tout ce qui est fait par et pour l'homme commence et finit par la statistique. Donc nécessairement, c'est le point de départ, le point de sortie que d'utiliser l'IA formelle.
Et justement, vous,
au milieu, on peut utiliser l'IA statistique.
Et vous, du coup, vous dites beaucoup que vous utilisez l'IA sémantique. C'est quoi exactement dans cet univers-là, l'IA sémantique ?
Ben, l'IA sémantique, c'est une IA qui repose sur des graphes de connaissances, sur des modalités de raisonnement, sur de la manipulation de concepts qui peuvent être déclinés selon différentes formes. Si je prends un cas très très simple, vous avez un concept de voiture, par exemple. Mm-hmm. Donc ça, c'est un concept. Et en fait, vous allez l'exprimer d'une certaine manière. En France, vous allez dire voiture. Et puis quand vous êtes aux États-Unis, vous allez dire car. Mais dans les deux cas, vous désignez le même concept. Et donc cette IA sémantique, elle permet de faire abstraction des modalités et de la forme que va prendre votre savoir ou votre information dans son contexte. Vous allez toujours pouvoir faire référence au concept de base, ce qui fait que l'information devient mobile, compréhensible par tous et manipulable par la machine comme par l'homme.
Et du coup, la machine, elle compose ce que vous appelez des graphes de connaissances.
C'est ça. En fait, notre système, un système qui fait de l'ingénierie des connaissances, c'est un système qui est capable de maintenir, d'entretenir, de mettre à jour et d'enrichir un graphe de connaissances.
Et un graphe de connaissances, c'est quoi exactement pour nous expliquer ? Alors, on sait que c'est beaucoup utilisé, ça a beaucoup été utilisé par Google ou sinon pour indexer les contenus. La manière de...
Je sais que leur système en interne, parce qu'ils l'ont fait pour eux, ils l'ont pas rendu disponible pour l'ensemble des acteurs économiques. Effectivement, ils ont en interne une sorte de graphe de connaissances qui leur permet de connecter les éléments entre les documents ou les concepts entre eux. C'est pour ça que depuis quelques années, vous avez, lorsque vous faites une recherche, vous avez un cartouche d'informations. Si vous faites une recherche, c'est pas sur Albert Einstein, vous allez avoir sur le à droite de votre résultat de recherche une petite fiche qui dit alors Albert Einstein, si on parle du scientifique, voici sa date de naissance, etc. Une fiche de base qui présente le savoir, la connaissance qu'on a sur Albert Einstein. Et on a pu le reconstruire parce que Google est allé chercher le graphe de connaissances associé à une personne physique qui est un scientifique qui s'appelle Albert Einstein. Donc, ce qu'on appelle graphe de connaissances, c'est une approche, une manière de structurer l'information. Donc, je voudrais pas être trop technique.
C'est intéressant. Ici, on a déjà évoqué, par exemple, l'organisation d'un schéma de données. C'est un peu le même principe. C'est-à-dire que, certes, il va y avoir beaucoup de données et de connaissances un peu dans tous les sens et qui partent un peu dans tous les sens, mais il y a quand même une sorte de squelette dans tout ça qui est utilisé, et pas imposé, mais qui est utilisé par le dispositif technique.
Oui, tout à fait. Il y a un langage formel de structuration de l'information. Elle est structurée en triplet. C'est-à-dire qu'on a le sujet, le prédicat et l'objet. Donc, par exemple, je veux dire, Albert Einstein a découvert la relativité. Donc, Albert Einstein, c'est le sujet. La relativité, ça va être l'objet. Et a découvert, c'est le prédicat. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui lie l'un à l'autre.
Et tout ça, on essaie de le relier, les différentes connaissances, on essaie de les relier entre elles par ces différents objets.
Oui, c'est ça. Quand vous êtes capable de décrire les données et l'information, les données, selon en utilisant cette grammaire, vous passez de la donnée à l'information, vous avez de l'information. Et quand vous rassemblez de l'information dans des contextes particuliers, vous avez de la connaissance. Donc, si vous dites que Albert Einstein était allemand, par exemple, vous reliez Albert Einstein à un pays qui appartient à l'Europe, qui a une histoire, etc.
Et vous pouvez repartir dans une autre recherche de connaissances.
Exactement.
Autour de tout ça. Donc, et on voit bien que tout est lié. C'est à la fois structuré, avec une méta-ontologie, avec quelque chose qui vient structurer le contenu, et à la fois très libre dans la manière de naviguer dans ce contenu-là. Bon, on est parti fort en intro, là, pour le coup.
Mais c'est
bien, parce que ça nous donne aussi les bases de votre technologie. Cette techno-là, elle fonctionne aussi bien sur des connaissances textuelles, elle peut aussi être appliquée à de l'image, elle peut être aussi appliquée à de la vidéo, elle peut être...
Oui, tout à fait. En fait, on est complètement agnostique de la ressource qu'on manipule. Toute ressource est considérée comme de la donnée ou de l'information que l'on peut mettre en situation dans un graphe de connaissances. Donc, si vous prenez un match de foot, par exemple, le match un match du PSG contre le Bayern de Munich, ben, chaque élément de connaissance, ça va être le nom des joueurs, leur poste, et vous êtes capable comme ça de dire, ben, je voudrais voir l'ensemble des actions faites par des attaquants qui ont abouti à transformer à faire varier le score du match. Et donc ça, c'est le type de question que vous pouvez poser lorsque vous adressez un graphe de connaissances.
Donc ça, c'est pour le domaine du sport. C'est quoi vos autres clients? Parce que, en fait, ce qui est assez étonnant, c'est qu'avec cette plateforme que vous avez montée, finalement, vous pouvez adresser un nombre de cas d'usage, de clients, un nombre de situations qui sont quasiment illimitées. C'est quoi vos autres clients du moment dont vous pouvez parler?
Bon, on a des clients dans le domaine des médias, dans le domaine du cinéma, dans le domaine de l'intelligence, du renseignement, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine des télécommunications. Donc, en fait, cette problématique d'ingénierie des connaissances, elle est transversale. Je pourrais même dire qu'elle est c'est une problématique qui est une problématique du système tel qu'il est aujourd'hui. Vous avez vu, les économies sont intriquées, interconnectées, les entreprises sont interconnectées. Donc, on vit dans un monde où l'information circule très vite et elle est disponible et l'information que manipule une organisation, elle a été soit produite par elle-même, par l'organisation, soit elle est exogène, elle a été produite par des acteurs extérieurs à l'entreprise. Et donc, il faut être capable de la récupérer, de s'approprier et d'utiliser pour ses propres besoins. Donc, pour faire ça, une base de données ou de la business intelligente n'est plus suffisant.
Oui.
Il faut être capable de raffiner l'information pour la traiter, la digérer, l'exploiter.
Et de créer le graphe et de créer les conditions de la navigation à travers la connaissance. Du coup, on va revenir au cas d'usage et à vos différents clients juste après la petite pause qui est en train d'arriver doucement. Mais votre solution, c'est une plateforme. Et cette plateforme, elle peut être installée chez un client. C'est-à-dire que si client vous dit, moi j'ai tout un tas de données, tout ça qui sont assez sensibles. Est-ce que c'est du cloud que vous pouvez sécuriser très fortement? Comment ça marche?
Oui, tout à fait. Alors comment ça marche? Notre plateforme, pour dire simplement, c'est en anglais on dirait un knowledge operating system. Donc c'est operating system, c'est ordinateur.
Oui, c'est l'OS quoi.
Ben nous c'est un OS de manipulation des connaissances. On a créé un OS qui...
C'est un Windows, ou un Ubuntu de la navigation à travers la connaissance.
C'est ça. Au lieu de manipuler des 0 et des 1, il gère des grains de connaissances, il processe ses contenus et ses données comme le fera un OS. Donc c'est ce qu'on fait. Et donc c'est ce qu'on déploie lorsqu'on déploie notre plateforme qui est déployée dans le cloud. Et comme c'est une architecture dite distribuée, certaines parties peuvent être chez le client, d'autres en ligne, ou tout peut être chez le client. C'est le client qui décide quel est le niveau de sécurité et les modalités de déploiement qu'il veut pour la plateforme.
Bon, bah écoutez, là, on a fait un bon tour d'horizon du produit. Après, juste après la pause, on fera le tour d'horizon de ce que vous faites avec tous vos clients. Je vous propose une petite pause musicale. Vraiment, alors j'ai une petite. À chaque fois, j'essaie de proposer des choses originales et j'ai beaucoup proposé des musiques générées par l'IA. Je vais m'arrêter un petit peu. Aujourd'hui, je vous propose un vrai artiste, un artiste français mais international qui s'appelle Talisco et avec un message qui fait du bien en ce moment. L'amour est beau. Voilà, on écoute Talisco.
Je t'aime et sur ta peau, j'ai gravé
Merci Talisco. On se retrouve sur Cause Commune sur la FM 93.1 à Paris, toujours Parlez-moi d'IA, toujours l'épisode qui s'interroge sur la manière dont l'IA peut générer de la connaissance avec Stéphanie Solitude de la société Perfect Memory. On a déjà évoqué un petit peu tous les sujets autour de votre plateforme, mais pour l'instant on ne s'est pas encore trop dit comment l'IA finalement elle intervient sur ce dispositif. Stéphanie, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et est-ce qu'on peut commencer à aborder des cas d'usage, des cas concrets?
Oui, bien sûr. En fait, l'IA statistique, du coup, je le précise maintenant, elle permet de classifier et d'étiqueter des données sur lesquelles on a peu d'informations. Et donc de reconnaître leur catégorie d'appartenance ou leur nature. Et donc, par exemple, dans un cas concret, si on revient par exemple dans le domaine du sport, l'IA elle peut permettre de détecter le visage de quel joueur est à l'écran.
Okay, hein, elle regarde la vidéo et par reconnaissance faciale, elle reconnaît le joueur et elle étiquette le joueur en fait.
Exactement. Si vous faites une analyse, si vous n'avez pas le texte qui a été dit par un journaliste de l'actualité, vous pouvez faire passer un système de speech to text, de transcription de la voix vers le texte, pour récupérer ce qu'a dit le présentateur du journal, et ainsi être en mesure d'indexer les mots qui ont été prononcés et les thèmes qui ont été abordés pendant le journal.
Donc un contenu qui était un peu encapsulé comme une vidéo, qui est toujours un truc un peu fermé, finalement vous l'ouvrez en disant à telle minute je reconnais le visage de Mbappé et à telle seconde le présentateur a dit but et a dit magnifique passe. Enfin, et donc vous pouvez à chaque ouvrir finalement la connaissance sur ce fichier initialement vidéo qui est un peu fermé sur lui-même, c'est ça?
C'est ça. Et donc l'IA en général sert à ça. L'IA sert. Il y a deux domaines dans lesquels l'IA apporte pleinement sa capacité. C'est quand il s'agit de classifier, de segmenter des grands volumes de données et de mettre des étiquettes sur des éléments de manière industrielle, mettre des étiquettes sur des objets sur lesquels on a peu d'informations. Donc on lui demande de reconnaître. Et derrière ça, le système, la suite du système va consister à valider ce qui a été proposé par l'IA. Et le deuxième domaine dans lequel l'IA maintenant commence à être vraiment performant, c'est dans l'interfaçage entre l'homme et la machine. Donc je vais être capable maintenant, grâce à l'IA, de poser des questions en langage naturel.
Oui.
En disant, voilà, je voudrais la reprise de volée de Mbappé pendant qu'il marque un but, au même moment où le logo de l'annonceur du PSG apparaît sur les bords du stade.
Mais d'un côté, elle vous a aidé à bien repérer le contenu et à faire ce travail-là sur des heures et des heures et des heures de contenu et qui aurait demandé beaucoup, beaucoup de sueur et de sang à des humains. Et de l'autre côté, elle vous aide en plus à aller chercher, une fois que le contenu existant est indexé, elle vous aide à chercher à naviguer à travers le contenu par des requêtes plus naturelles, quoi.
Oui, tout à fait. Et je précise immédiatement qu'on fait appel à l'IA lorsqu'il n'y a pas d'autre solution.
Oui.
Parce que c'est très coûteux en énergie. Alors, l'IA, si je reprends les termes de Luc Julia, l'inventeur de Siri.
Oui, que vous avez entendu dans le générique d'ailleurs de l'émission.
Oui, tout à fait. Et dont le livre L'intelligence artificielle n'existe pas est parfait pour éclairer là-dessus. L'IA, c'est pas de l'intelligence. La manière de fonctionner de l'IA a à peu près rien à voir avec la manière dont notre cerveau fonctionne. Il faut des centaines et des milliers d'images de chats pour qu'un système informatique, un système d'IA puisse reconnaître un chat. Et il va pas le reconnaître dans la nuit. Un humain, il faut deux chats pour que un enfant de 2 ans reconnaisse un chat à jamais, y compris dans la nuit.
Oui, on l'a pas assez dit. Votre techno, elle permet ça parce que vous l'avez beaucoup, 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 beaucoup entraîné, beaucoup amélioré, beaucoup corrigé.
Alors, ce que je vous ai dit au début, c'est que on a connecté les deux branches de l'IA. Mmh. Et donc, on fait appel à l'IA statistique, donc à la reconnaissance de visage, etc., que lorsqu'il n'y a plus d'autres solutions. Parce que la plupart du temps, ce qu'on observe dans les organisations, c'est que l'information, elle existe déjà. Oui. Simplement, elle est cachée dans des îlots fonctionnels, oui, qui ne se parlent pas entre eux. Et en fait, le problème, avant d'être un problème d'identification et de reconnaissance, c'est un problème de circulation des savoirs et d'interprétation et de mise en commun de ces savoirs. Donc,
et quand vous abordez un nouveau client, je vous coupe parce que c'est vraiment très intéressant ce point-là. Quand vous abordez un nouveau client, du coup, le truc ne marche pas du premier coup. Il faut que vous instanciez votre solution à son univers, à ses données. Comment vous l'accompagnez justement à votre client quand il vous dit bah, j'ai cru comprendre que votre techno peut m'aider, mais qu'est-ce que je dois faire au début? Comment vous l'accompagnez dans cette première instanciation de votre technologie chez lui, en fait? Comment ça vous analysez ces données, vous regardez ce qui est déjà bien mis en qualité, ce qui doit l'être mieux?
Oui, en fait, ce qu'on commence par faire, c'est dans toute organisation, que ce soit une entreprise, une association, un service public, il y a les fonctionnalités critiques. Et donc, à ces fonctionnalités critiques, va être associé des problématiques critiques. Et quand on arrive chez un client, on dit « Donnez-nous vos trois plus gros problèmes que vous avez jamais réussi à résoudre. » Et donc, quand il nous donne, ça constitue un cahier des charges, et ça va constituer pour nous ce qu'on appelle le MVP, le produit minimum, oui, la configuration minimale qu'il faut mettre en place pour le client. Donc, c'est ce qu'on fait avec lui. Donc, ça va nous donner à quelle source on doit se brancher, parce que quels sont ces îlots techniques ou ces îlots fonctionnels qui communiquent avec personne, mais qui ont de l'information qui est capitale. Auprès de qui doit circuler cette information, quelle forme doit prendre et quel vocabulaire la machine doit utiliser pour donner accès à cette information. Quand on a ces quatre éléments, on est capable très rapidement de configurer la plateforme pour qu'elle aille chercher ces informations, les rendre compréhensibles par l'ensemble des acteurs de la chaîne opérationnelle et la restituer dans une interface graphique qui soit extrêmement simple à manipuler. Et une fois qu'on a ce point de départ, en fait, comme on est dans le monde sémantique, et c'est lui qui pilote l'IA statistique, c'est lui qui pilote les ChatGPT ou les systèmes d'IA d'analyse, ouais, d'image, de speech, etc., ben on est capable, vous l'avez compris, le graphe de connaissances, on le met à jour tout le temps, donc on est capable de mettre à jour le périmètre de couverture de la plateforme pour qu'il augmente en intégrant progressivement d'autres problématiques que le client veut voir traiter après ces trois problématiques critiques.
Donc il est capable de s'ouvrir au fur et à mesure, quoi. Ouais.
Oui, c'est ça.
D'accord. Et par exemple, là, si on en vient à votre client France Télévisions, par exemple, qu'est-ce que vous faites, oui, pour France Télévisions? Comment vous êtes arrivé chez France Télévisions et qu'est-ce que vous faites pour eux aujourd'hui?
Alors France Télévisions, ils ont une vraie vision qui est assez impressionnante. En fait, ils se sont dit à un moment... c'est gentil, hein, Internet, sur YouTube, tout ça c'est très sympa, mais c'est du savoir et c'est de la valeur qui part de l'entreprise sans qu'on sache où ça va et sans qu'on sache même avoir un retour sur les investissements qu'on a fait sur ces ressources qu'on a produites et qui sortent de l'entreprise. Donc ils ont dit, à partir de maintenant, toute donnée qui est produite par qui que ce soit dans l'entreprise, toute donnée, tout contenu doit être référencée. Et donc pour ça, je vais mettre en place tout un
système de référencement, hein.
Ouais, un système de référencement qui va utiliser l'intelligence artificielle pour indexer les éléments et faire en sorte de créer ce catalogue de tout ce qui est produit l'entreprise, quel que soit son département ou sa nature.
Et l'idée, c'est de valoriser cette production une fois qu'elle a été diffusée?
Ben, une fois que vous avez fait ça, en fait, vous ouvrez énormément de leviers. Vous êtes beaucoup plus performant pour exposer votre catalogue parce que les modalités de recherche dans votre catalogue de contenu est plus simple vu qu'il est mieux indexé. Vous augmentez l'accessibilité au contenu. Regardez, si vous êtes capable de garder le dialogue d'un feuilleton, le script d'un feuilleton, et de le réconcilier lorsque vous diffusez l'épisode sur Internet pour qu'il soit revu plus tard, ben, vous n'êtes pas obligé de faire passer de l'IA pour faire du speech to text, vous avez directement le dialogue. Et vous avez aussi, parce que vous avez le script, les décors, où est-ce qu'ils ont lieu. Donc vous pouvez faire de l'audio description. Donc ça veut dire que vous augmentez l'accessibilité auprès de tous les publics, que ce soit les malvoyants, les non-voyants, les malentendants.
Vous enrichissez vos contenus pour plus de public qu'aujourd'hui, en fait.
C'est ça, plus de public, et avec une meilleure audience, une meilleure accessibilité, et donc vous augmentez vos audiences en général.
Et ça a une valeur, le catalogue des émissions de France Télévisions ?
On va demander à YouTube.
Mais il n'y a pas une estimation, justement, j'avais cru voir passer une estimation sur l'heure de, une heure de contenu audiovisuel stocké. Si c'est pas exploité, bah, ça vaut zéro. Et si justement on arrive à naviguer à l'intérieur, il y a une estimation, non, ça vous dit rien?
Alors, j'ai pas les chiffres, mais c'est ce qu'on appelle du repurposing, de la recontextualisation. Vous pouvez donner 3, 4, 10 bits à du contenu, et vous pouvez les ressortir à des moments clés, historiques, etc.
Moi, j'avais entendu dire que qu'on pouvait valoriser une heure de produit audiovisuel, stocké et, bien sûr, à la demande, accessible, à $100 par an. Ce qui veut dire que quand vous avez des milliers, des millions et des millions d'heures de programmes en stock, vous avez et que vous êtes en capacité de le valoriser grâce à Perfect Memory, par exemple.
Oui, tout à fait, ça vaut une fortune, c'est clair. Et en fait, les gros acteurs de l'Internet ont fait la démonstration. Et c'est pour ça que les acteurs classiques se sont dit, attendez, mais en fait, il y avait tout ça de valeur dans mes archives. Et en fait, ils ont dit, en fait, ce sont pas des archives, ce sont des actifs.
Ben oui.
Je garde le A, mais je mets le bon mot derrière. C'est pas des archives, ce sont des actifs. Et un actif, ça a une valeur. C'est dans le bilan d'une entreprise.
Et donc, quand ils font appel à vous, et ben vous, c'est une valorisation qu'ils font de tout ça.
Exactement.
Et sur le médical, vous avez un cas d'usage particulier sur le médical?
Alors pas encore, alors que c'est probablement le domaine le plus naturel sur lequel on sera en mesure d'opérer. On travaille à trouver
le
partenaire qui va nous permettre de rentrer dans ce monde qui est assez particulier. Et
d'accord. Donc là, on a parlé sport, on a parlé audiovisuel, vous avez quel autre type de...
Bah, j'avais dit intelligence, dans le renseignement.
Donc ça, vous ne pouvez pas trop en parler, je pense.
Non, je ne peux pas trop m'étendre là-dessus.
Nous, on aimerait bien, mais je pense que c'est compliqué, quoi, d'évoquer le cas d'usage, oui.
Bah, vous imaginez bien que mettre en relation des faits, c'est quelque chose de capital
quand
on fait du renseignement.
On voit bien, effectivement, surtout avec le nombre de sources ouvertes qu'il y a désormais, tout l'enjeu d'arriver à les relier entre elles et à leur donner une cohérence, effectivement. Mais ça serait passionnant. Si vous pouviez en parler de manière un peu anonyme, ça serait passionnant. Peut-être qu'on en reparlera dans une autre émission, du coup.
Peut-être.
Vous aviez évoqué aussi potentiellement la vision 360 degrés, la vision client, arriver à tout réconcilier la vision d'un client au sein d'une organisation ou d'un usager au sein d'une structure publique.
Tout à fait. Ben, on intervient pour un opérateur de télécom. L'enjeu pour un opérateur télécom, c'est de faire en sorte que la technique, le marketing, le commercial se parlent et se comprennent. Parce que vous considérez que si on considère un truc tout simple qui est la carte SIM, pour la technique, c'est pas la même chose que pour le marketing ou pour le commercial. Pour le commercial, c'est un abonnement.
Oui.
D'accord, c'est une personne avec un abonnement. Pour le marketing, c'est une opération de com. Et pour la R&D, c'est une fréquence d'accès, les modalités de transfert de données, etc. Donc, c'est pas du tout la même chose, mais ils ont besoin chacun de se parler pour que, par exemple, quand il y a une campagne marketing qui est lancée sur un tel bassin régional,
ils arrivent bien à faire le lien entre les différents éléments déjà disponibles, qu'ils le vendent pas deux fois,
Ou qu'ils vendent pas de la 5G alors que les clients se plaignent qu'ils ont fait de la 3,5G ou des choses comme ça.
Ouais.
Ils proposent des services qui sont pas du tout en rapport avec la réalité du terrain.
On voit bien que votre solution est vraiment, il y a 1000 cas d'usage derrière. C'est déjà fini. C'est une solitude de Perfect Memory. Merci beaucoup encore pour ce partage de votre solution et des éléments de votre solution. Ça nous a permis de voir comment l'IA peut aider aider à gérer la connaissance et donc à permettre d'accéder plus facilement à cette connaissance. Merci encore une fois de nous avoir fait découvrir le graphe de connaissance, également le sémantique. Et merci en tout cas d'apporter autant à ce domaine, parce que je pense qu'effectivement c'est très important pour bien comprendre l'IA. Restez sur 4... Merci encore du coup et à bientôt. Stéphanie Solitude. Restez sur 93.1 FM sur Cause Commune. Je vous laisse entre de bonnes mains, celle des émissions de Cause Commune.